Passion d'écrire, plaisir de lire. Jean-Claude Delair sur RVB.
Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver donc sur RVB dans mon émission Passion d'écrire, plaisir de lire. Et aujourd'hui, j'ai un auteur d'importance qui nous a rejoint pour parler de son dernier ouvrage qui s'appelle « Allez voir ailleurs ». Il s'agit d'une autobiographie autorisée, comme c'était en sous-titre, et on vous dira pourquoi. Et Daniel Malbranque, donc, est un poète reconnu, que j'ai déjà reçu dans ce studio. Et j'ai d'autant plus plaisir de le recevoir que son livre, donc son récit « Aller voir ailleurs » m'a beaucoup bouleversé, m'a beaucoup intéressé, parce qu'il est multiple à la fois. Ce n'est pas simplement une autobiographie comme on peut s'y attendre, linéaire, où il raconte depuis qu'il est tout petit jusqu'à la fin de ses jours comment il a vécu. Ça peut être très bien d'ailleurs, je ne suis pas contre. Mais là, c'est, je dirais, un voyage. Il nous amène dans un double voyage que j'ai aimé parce qu'il est intérieur. C'est-à-dire un voyage qui nous permet d'être immobile mais d'aller très loin, bien sûr. Et puis un deuxième voyage qui est dans le temps, hein, puisque s'écoule des jours. Dans son autobiographie, et dans l'espace aussi, même si pour l'instant, et on en parlera après, il se passera autre chose, mais pour l'instant, bon, il ne va pas très loin, il faut bien le dire.
Bonjour Jean-Claude. Effectivement, l'important pour moi dans ce livre, c'était de montrer que la poésie, c'était aller voir ailleurs. Alors, aller voir ailleurs, c'est avec un R, c'est pas un Z.
Bien sûr.
Et donc, comme tu le dis, il y a différents voyages. Je voulais rendre hommage également dans ce livre à plein de gens que j'ai pu côtoyer et qui méritent bien qu'on ne les oublie pas. L'une des façons de ne pas les oublier, c'est d'en parler dans un livre.
Oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé et qui est, je dirais, très original, c'est que vous nous baladez, bien sûr, dans un temps qui est passé, puisque ça commence en 1974,
si je me... Même 69.
Mais bon, on est dans les années 70.
Voilà, c'est ça.
Dans les années 70. Et puis, en même temps, vous nous projetez très en avant.
Oui, en 2032. En 2032. Donc, ça me permet, moi, d'avoir un peu plus d'âge, déjà, et de parler du présent actuel, c'est-à-dire de l'année 2020, avec les gens qui m'entourent, comme si c'était du passé. Pourquoi je l'ai fait ? Ça me permet de faire une distance par rapport à ce que je raconte, une sorte de mise en perspective du temps, qui permet également de relativiser ce que je dis à propos des années 70 et également à propos de ce qui se passe actuellement.
Alors on est toujours aussi dans le cadre de l'hommage,
oui.
Puisque en fait ça vous permet aussi de rendre hommage à des gens qui sont aujourd'hui auprès de vous,
oui.
Avec cette distanciation
nécessaire. Alors avec bien sûr mes tout proches, mon épouse et puis mon fils, mais également ceux qui m'accompagnent dans cette défense de la poésie, entre autres Jean-Claude et puis les amis de la vie multiple et à quelques autres également. Et pour moi ça me paraît tout à fait naturel de replacer mon aventure parmi tous ces gens, parce que toutes ces personnes m'ont apporté beaucoup, ils m'apportent encore beaucoup. Et je commence l'ouvrage vraiment par pratiquement un hommage à celui qui va être le déclencheur un petit peu de ma vie poétique et aventureuse, Gérard Lehir, qui est un ermite qui vivait dans les bois, que j'ai rencontré à l'âge de 16 ans en 1969.
Oui, alors ça, effectivement, vous en parlez. Vous parlez aussi au départ, on fait la connaissance de celle que vous appelez votre muse.
Oui.
Bon, donc qui est Marina,
oui.
Qui est votre femme.
Oui, mon épouse.
Oui. Et alors en plus, vous la présentez d'une manière qui est assez extraordinaire, parce qu'on voit une relation d'homme, enfin de mari à femme, normale. On n'est pas, elle ne vous adule pas, cette femme.
Non, pas du tout, au contraire. Et ça me permet également de montrer qu'on peut très bien être dans la lune, comme les poètes.
Oui.
Et également, il faut faire attention à savoir passer la serpillière.
Exactement. D'ailleurs, elle vous le dit. Qu'est-ce que tu fais?
Voilà.
Arrête d'écrire.
Voilà.
Aide-moi à éplucher les légumes.
Voilà. Donc ça. Et en même temps, Il n'y a pas que cette relation-là. Il y a aussi la relation, et je le dis dans un chapitre, où elle m'ouvre des portes d'écriture. Parce qu'elle a une façon de voir la réalité à travers le langage. Elle modifie le langage. Et pour moi, c'est source d'inspiration tout le temps. Et donc, elle est deux aspects. Elle n'est pas que celle qui me ramène à la réalité, au concret. Ouais. Mais c'est en même temps celle qui déclenche l'écriture également.
Je ne parlerai pas de moi, mais je connais un peu ça. C'est assez formidable. Ça crée. On voit bien qu'on est dans une espèce d'osmose, hein, de partage, quoi. Avec la critique, quand elle est positive, comme ça, qui permet évidemment d'avancer. Alors, vous avez eu beaucoup de chance quand même, hein, Daniel Malbranque, par vos parents déjà. Ouais. Hein, là, vous rendez hommage aussi à vos parents.
Oui, bien sûr, qui m'ont montré qu'on pouvait vivre une vie d'amour. Déjà.
Oui.
Et lorsqu'on est enfant, c'est important d'avoir ses parents en plein amour. Et également qui ont su m'ouvrir à tout un tas de choses, bien que mes parents étaient de conditions très modestes. Ils ont vécu chacun des moments difficiles dans leur vie. Mon père a perdu son propre père à l'âge de 10 ans. Oui. Il n'a pas fait de hautes études, il était jusqu'au certificat d'études. Ma mère, elle vient d'une famille de 19 enfants, elle était l'aînée des filles.
Ouh là là.
Donc imaginez, en tant qu'aînée des filles, il fallait s'occuper tout le temps des petits qui arrivaient. Oui. Et donc la culture, pour elle, c'était pas grand-chose. Hein. Mais tout le reste de leur vie, lorsqu'ils se sont rencontrés, après, ils se sont cultivés à leur manière. Et ils nous ont apporté cet esprit de curiosité. Qui sans doute est à l'origine, pour moi, de l'esprit poétique.
Oui, hein, sans doute. Et puis aussi, peut-être, ce qui paraît, enfin, dans ce que vous écrivez sur vos parents et votre père en particulier, c'est-à-dire pas le jugement qui vous écrase et qui vous empêche d'agir. Quoi.
Voilà. Ouais.
On vous laisse cette liberté.
Il m'a toujours fait confiance et Dieu sait s'il est... il fallait être un parent très solide pour accepter tout ce que j'ai pu leur faire subir. En fait, je bats ma coulpe un petit peu dans ce livre également parce qu'à la réflexion, je vois les inquiétudes que ma mère, par exemple, a eu. Et je l'ai su après sa mort. Elle est morte à l'âge de 50 ans, en 83, et par mes sœurs qui sont restées plus longtemps dans la famille, qui étaient plus jeunes que moi, bien, j'ai su les inquiétudes que ma mère avait sur la vie un peu dissolue que j'ai pu avoir. Quoi.
D'accord. Ouais. Enfin, alors donc, ça c'est important, vous êtes dans un milieu qui est un milieu où l'amour prédomine.
Oui.
Bon, donc ça c'est bien. Et ensuite, vous êtes une personne, vous-même, par votre caractère, de très curieuse, de très engagée, disons, dans ce voyage, justement, intérieur.
Oui, alors, pour moi, la poésie a toujours été un engagement presque politique. Hein, parce que la poésie, c'est refaire le monde. Et là, on pense à Arthur Rimbaud, hein, par le langage. Parce que le langage nous a servi, dès qu'on est tout petit, on forme notre esprit avec ce langage, que ce soit par notre entourage, disons, de parents, mais également après par l'école, par la télévision maintenant, par les médias, etc. Ah, la poésie, c'est justement reprendre droit sur le langage et montrer qu'il y a d'autres horizons que celui qu'on nous impose depuis la naissance, quoi.
D'accord. Ah. Alors, je vais lire un passage de votre livre où là, vous décrivez exactement ce que vous venez de dire de la poésie. « Dans ma vie, qu'une seule chose jusqu'à aujourd'hui ou presque a compté, la poésie. Je mets une majuscule car longtemps elle fut déesse de mon destin. Maintenant, je dirais qu'elle fut drogue ou maladie, une sorte de pleurésie qui me prit à l'adolescence, mais qui, je crois bien, depuis la plus tendre enfance, résonne sottement à mon oreille. » Depuis ce jour où, fier comme Artaban, devant monsieur l'inspecteur d'académie, je fus choisi par notre maire, monsieur Viporek, pour dire la récitation du jour, c'est un petit trou de verdure où chante une rivière. Certainement aussi, depuis les merveilleux et pourtant si simples moments de grâce vécus au bord de la Blaise avec père, qui mettait ses lignes à l'eau et surveillait les bouchons qui flottaient. L'heure était calme, brumeuse, sous les hauts peupliers, une brise faisait chanter les feuillages. Les oiseaux fusaient d'arbre en arbre ou plongeaient dans la rivière. La nature s'éveillait. Tout ceci portait à la rêverie et du songe à la poésie. Il n'y a qu'un temps de faible éternité, le temps juste d'un précieux vol. Dès lors, tout permettait l'intime balancement de la pensée, et c'était bon. Comme lorsqu'on se laisse aller à rêver sous le soleil et sur les nœuds ésotériques de quelques douces mélodies. Et les mots gagnaient en qualité, les savourant comme friandises, je m'enivrais de leur pulpe et de leur saveur. À tort ou à raison, la prose m'apparaissait plus fade. Je n'avais point, il faut dire, encore goûté au charme d'un Catulle Mendès, d'un Joseph Delteil ou de Raymond Roussel. Du moins, le pouvoir du romancier ou du novelliste me semblait provenir uniquement de son habileté à maintenir le suspense, à scénariser ce qu'il voulait dire, alors que j'avais découvert la force du comment cela pouvait être dit, suggéré, inventé, capté au plus intime de l'être. Cela me rappelle ce que me reproche parfois ma muse. Tu crois m'entendre alors que je ne dis rien ? Et si je te siffle ou t'appelle, tu fais le sourd à moins que tu ne le sois.
Oui, voilà, ça représente bien ce que je pense de la poésie.
Voilà, donc ça c'est une bonne définition de la poésie. Et cette poésie, donc, vous allez la rencontrer, je dirais, en chair et en os, lorsque vous rencontrez Gérard Lehire.
Oui, Gérard Lehire, qui était un petit homme rondouillard, un peu, qui vivait dans un petit bois, au lieu-dit Le Chant des Oiseaux.
Le Chant des Oiseaux,
c'est le nom du lieu-dit.
Et ça, c'est en Bretagne.
Oui, c'est en Bretagne, pas loin dans le Léon, à Saint-Paul-de-Léon, où on habitait à l'époque. C'est le pays des artichauts, des choux-fleurs.
Oui, et des prêtres à l'origine.
Et des prêtres, bien sûr. Mais oui, j'ai fait toutes mes études dans un collège religieux, un bagne d'enfants. Mais enfin, oui. Ça nous éloignerait peut-être. J'en parle d'ailleurs un petit peu.
Oui.
Et donc, Gérard Lehire était quelqu'un qui vivait seul en ermite. Il était séparé de sa femme et de ses enfants, bon, pour X raisons. Et bien, il vivait comme un poète, un peintre ou un sculpteur, parce qu'il est les trois, vivant de peu, de très peu.
De très peu.
De
oui.
très peu, et puis prêt à tous les délires. Donc, à 16 ans, j'arrive chez lui par hasard. C'est mon père, en fait, qui m'y amène. Et c'est l'éblouissement. Devant la pauvreté du lieu, il vivait vraiment dans une masure, en terre battue, il n'y avait qu'une pièce, etc. Enfin, c'était devant la pauvreté également de sa vie, mais la richesse phénoménale de son esprit. Le mélange des deux, entre cette pauvreté matérielle et cette richesse spirituelle, c'était un choc.
Oui,
un choc.
Oui.
Je me disais, tout d'un coup, à tort, hein, d'une certaine façon, pour être poète...
Il faut être comme ça.
Il faut être comme ça. Ce qui me confirmait un petit peu par la vie d'autres poètes plus reconnus comme Germain Nouveau, qui était un ami de Verlaine et Rimbaud et quelques autres. Mais là, j'avais en chair et en os quelqu'un qui vivait exactement ce que j'avais inconsciemment un peu en esprit.
Alors, ça veut dire quelque part, si je vous entends bien, qu'il faut se détacher du matériel, quoi.
Voilà.
Complètement pour atteindre le sommet.
Voilà. C'est un peu le message d'André Breton, le pape du surréalisme, lâcher tout. Et j'en parle assez régulièrement. Il faut se détacher justement de tout ce qui est matériel pour atteindre le summum, en quelque sorte.
Oui.
Depuis, j'ai révisé un peu mon opinion. Et ma muse permet dans ce livre de aussi relativiser cette opinion.
Oui, il faut d'autant la relativiser qu'il y a des grands poètes qui sont tous différents les uns des autres.
Voilà.
On n'est pas obligé d'être un poète maudit.
Voilà.
Bon, hein.
Mais il n'empêche que cette façon de voir la poésie, ce n'est pas une façon littéraire. Il y a de très grands poètes qui sont des poètes, je dirais, littéraires, mais qui ne sont pour moi pas des poètes, au sens où je l'entends vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout d'eux-mêmes.
D'accord.
Donc, un seul exemple, René Char et Paul Verlaine.
Oui.
Je fais une différence essentielle entre les deux, par exemple.
Oui, bien sûr, c'est sûr.
Ouais. René Char est un très grand poète.
Oui, oui.
Avec des choses merveilleuses qu'on peut découvrir à l'intérieur de son écriture. Paul Verlaine, du point de vue stylistique, est parfois plus faible que René Char, mais plus vrai. Mais j'ai relativisé depuis le temps, avec le temps, mon opinion, et je suis moins radical que je l'étais à l'époque.
Oui, mais c'était normal. Quand on a 16 ans et un peu plus, il faut être radical et révolutionnaire. On va s'arrêter un instant. On va écouter donc une musique que vous avez choisie. Hein, en premier.
J'en dirai un petit mot, un petit peu après.
Oui, ensuite.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way. And though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return.
Passion d'écrire, plaisir de lire. Nous nous retrouvons donc avec Daniel Malbranque, l'auteur de « Aller voir ailleurs ». Il va nous dire un mot peut-être de ce que nous venons d'entendre.
Oui, ce chanteur est très très peu connu. Sa chanson est plus connue, Natcha Boy. Nat King Cole l'a interprétée. Mais j'ai choisi Eden Abbez, parce que c'est son nom, sans majuscule. Il ne voulait jamais qu'on mette une majuscule à son prénom, ni à son nom. C'est un chanteur qui, dans les années 30-40, vivait en ermite, dans un lieu connu un peu de tout le monde. Vous voyez peut-être le mot Hollywood, à Los Angeles.
Oui, tout à fait.
Et donc, sous le premier L, qui est énorme, de Hollywood, il vivait là.
D'accord.
Donc, de temps en temps, il descendait en ville, en quelque sorte. Il a été un peu connu, mais très peu. Mais il avait décidé de vivre en ermite, là aussi, lui. Fin des années 30, 40. Donc, c'était un peu un précurseur de ce que nous, la génération d'après 68, on a vécu.
D'accord.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi, et j'en parle je crois à un moment donné dans ce livre, de ce musicien qui est pour moi quelqu'un de très très intéressant à découvrir, parce qu'on ne le connaît pas suffisamment.
Moi je ne connaissais qu'à travers Nat King Cole, sa chanson.
Mais c'est le créateur de cette chanson. Et Natcha Boy, ça veut dire le garçon de la nature.
Oui, bien sûr.
Donc il y avait un retour aussi à la nature, et j'en parle dans mon livre, et dans le second sera un peu plus, parce que l'une des autres rencontres de ce livre, c'est aussi quelqu'un qui était à peine plus âgé que moi, et qui venait du monde paysan, ce monde paysan du Léon, où on cultivait... disons, la terre de façon anarchique, un peu comme on le faisait à l'époque, avec une grande pléthore de produits chimiques, et qui, lui aussi, avait pour, espoir, c'est que cette agriculture devienne nettement meilleure, et qui aussi vivait un peu comme nous, et qui va me faire découvrir plein de choses. Ensuite, lui, il va partir en Inde, etc. Et il va, à son retour, se lancer dans l'agriculture qui était déjà écologique. Et il défendait déjà, j'ai retrouvé une de ses lettres en 1974, où il m'écrivait pour dénoncer cette agriculture et pour la défense de la planète, Natcha Boy, enfant de la nature. Donc en 1974 déjà.
C'était un précurseur.
Voilà,
Oui, alors Daniel, est-ce que vous avez été tenté par cette vie donc un peu de reclus, ou non?
Non, c'était pas une vie de reclus, parce que autour de moi, j'ai toujours fait beaucoup de rencontres de gens qui s'étaient mis en dehors de la société. Pas de reclus, mais on était en marge.
En marge, quand
même. En marge.
Oui, hein. Très fortement.
Très, très, très fortement en marge. Pendant de longues années, moi ça a duré une dizaine d'années. Donc le retour après est plus difficile. C'était pas simplement une passade pendant les vacances. C'était, Et donc, non, j'étais pas inclus. La seconde partie de ce parcours-là, que je raconte pas dans ce livre, c'est justement lorsque toutes les personnes qui étaient devenues des amis, certains qui étaient morts, d'autres qui avaient disparu, etc. Je me suis retrouvé un peu seul, effectivement. Ça fera d'ailleurs l'objet du dernier tome, qui sera le troisième, où le voyage devient solitaire. Parce que tous les autres ont réussi à trouver le lieu et la formule, comme disait Rimbaud. Dans la vie, c'est ce qu'on doit faire, c'est trouver le lieu où on est bien à vivre et la formule avec laquelle on veut vivre. J'y ajoute, moi, le sens, qu'on veut donner.
Oui, le sens qu'on veut donner à sa vie. Oui.
Voilà. Et donc, mes amis, la plupart qui m'ont connu, qui m'ont côtoyé dans les années 73, 74, 75, 76, se sont installés, pour dire le mot très, très simplement. Quoi. Ils font des familles, etc. Tandis que moi, j'ai continué le voyage. Et comme je ne pouvais plus vraiment rester en Bretagne, eh bien, les voyages ont été au long cours.
D'accord. Hein, bon, on n'en est pas là.
Non.
Là, on reste sur le voyage. Donc, vous avez cette relation, alors que vous êtes un grand adolescent, on peut dire, avec Gérard Lehire.
Oui.
Bon, ça va durer un certain temps, mais pendant ce temps-là, vous êtes quand même quelqu'un qui est dans la norme. Vous allez au collège,
bien sûr,
au lycée, passez votre bac, vous devenez étudiant même.
Étudiant pendant deux années où je réussis.
Plutôt bien. Ouais. Bon, donc vous ne cassez pas complètement,
la relation. Non, jusqu'en 73.
Voilà, jusqu'en 73, vous êtes dans cette situation-là. Ouais. Et puis, il va se passer... Et ce qui est formidable dans ce que vous écrivez, c'est que malgré ce qui va se passer avec Gérard Lehire, puisqu'il va vous jeter dehors...
Oui, en fait, pour moi, c'est un père spirituel.
Oui.
Et j'étais presque son fils. Et donc, je suis parti un an à Bordeaux pour faire mes études, ma deuxième année. Puis au bout de cette année, j'ai tout lâché. Je suis retourné en Bretagne... où le premier lieu que j'avais à visiter, c'est celui de mon père spirituel, et de vivre avec lui, en quelque sorte. Je n'avais pas d'objectif, mais au bout d'un moment, eh bien, il m'a jeté parce que, et je le raconte, c'est parce que, en fait, je dérangeais sa tranquillité.
Exactement, oui.
Voilà. Je me faisais une mauvaise idée du pourquoi... Je l'ai compris après, du pourquoi il m'avait jeté. Je croyais que c'était parce que j'avais incité tous les autres qui étaient un peu sa cour à venir avec moi vivre à Brest en communauté. Mais ce n'était pas ça. C'était tout simplement que cet homme-là, qui était un ermite, acceptait les gens, mais un certain temps, l'après-midi, un ou deux jours, mais pas plus.
Bien sûr.
Et lui, il perdait sa tranquillité, son indépendance.
Oui.
Et donc, il me jette là, et c'était un des drames de ma vie.
Oui. Alors, pendant cette période-là, est-ce que vous écriviez ?
Oui, bien sûr. J'écrivais depuis l'âge de 14-15 ans.
Oui. Vous écriviez beaucoup de textes poétiques,
Oui.
Et est-ce que vous en avez gardé ou est-ce que...
Non. Je les ai détruits vers l'âge de 25 ans, à peu près. J'ai gardé, en fait, que la pièce que j'avais pu écrire avec Gérard Lehire.
Alors... Il y a une question que je me suis posée, c'est que vous êtes en Bretagne, vous partez dans le sud-ouest pendant une année, parce que votre père et votre mère...
Oui, mon père est nommé à Ribérac.
À Ribérac,
et donc moi en tant que fils, les études, je ne pouvais plus les continuer à Brest. J'aurais pu, mais à l'époque, ça ne se faisait pas tellement.
Oui.
Donc je les continue à Bordeaux, donc ça me coupe totalement oui, de, ben, comme tout adolescent ou grand adolescent qui s'en va, ben, il n'a plus ses amis, il n'a plus ses amours, il n'a plus son environnement, et c'est un choc en même temps. Ça.
Bien sûr. Ouais. Alors, vous retournez en Bretagne, vous retournez chez Gérard Lelire, ouais. Là, ça se passe mal, comme vous l'avez dit, pour la raison que vous expliquez et qui est tout à fait crédible.
Hein. Ouais, ouais.
Et vous allez connaître là une période beaucoup plus difficile.
Ah oui,
c'est une galère, on pourrait l'appeler.
Ah oui, oui. Après, à Brest, j'ai eu la chance quand même de des amis avaient loué un appartement. Hein, la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est parti en Inde, tout ça, et qui lui travaillait au Crédit Agricole et qui il aimait bien avoir une gentilhommière, en quelque, enfin pas une gentilhommière,
oui,
mais
oui, une garçonnière.
Une garçonnière, un peu plus, c'était un peu plus grand. Ouais. Donc il avait loué ça. Et avec deux, trois amis, on y habitait nous également. Donc on n'avait pas ce problème de loyer, mais il y avait le problème de vivre.
Et oui.
De vivre. Manger, et là, manger et.
Se soigner.
Se soigner. Il y avait, on n'avait rien, quoi. Ouais. Rien de chez rien. Donc c'était galère sur galère pendant pratiquement un an, quoi. Ça a été. Vraiment très très difficile, mais en même temps une richesse aussi une nouvelle fois due à, aux rencontres, à l'esprit artistique qui se développait là. Et très vite ce lieu est devenu aussi une sorte de, à Brest, de lieu de passage.
D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y avait, parce que moi j'ai essayé de lire aussi entre les lignes, hein, excusez-moi, mais tout le monde n'avait pas l'esprit que vous aviez.
Non, non, non.
Loin de là, même.
Oui, oui. Hein,
on a, bon, y avait des, quand même un paquet de marginaux qui, eux, n'étaient pas des artistes.
Non, 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 non. Parce que l'esprit poétique, ben, tout le monde ne l'a pas forcément. Mais l'esprit d'être en marge peut venir de différentes raisons. Et certains parce que par la vie... moi, j'ai connu, par exemple, des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui étaient bien plus âgés que moi, mais qui étaient traumatisés par la guerre d'Algérie. Donc, ils se trouvaient en marge. Parce qu'ils étaient traumatisés, d'autres parce qu'ils étaient en rupture par rapport à leurs parents. Moi, c'était pas ça, c'était pas une rupture. Hein. Même si j'étais parti, j'étais pas en rupture, mais j'étais pas fâché avec mes parents. D'autres parce que par facilité, et puis peu à peu, bah, ils se laissaient aller. Moi, c'était par choix au départ. Mais très vite, le choix, c'était presque une obligation, parce que... on oublie dans ces moments-là, lorsqu'on est en galère, le pourquoi on a fait ce pas de se mettre dans cette situation. C'est le présent qui compte.
Oui. Oui, et vous êtes quand même dans une obligation de vous occuper ou de vous préoccuper de ce qui est bassement matériel.
Ah oui, oui, oui.
Ça veut dire que la place à l'artistique est réduite, non ?
Non, parce que c'est plutôt l'inverse. C'est la place au concret qui est réduite. Parce qu'on est bien sûr, on est obligé. Alors, il y a tout un tas d'expédients. La mendicité.
Oui.
La mendicité. Même le chapardage. Hein, je raconte scène où dans les magasins. Également des petits boulots vraiment qui étaient presque des arnaques. Je raconte entre autres. Qu'on vendait des calendriers pour handicapés.
Oui.
Mais c'était du bidon. C'était quelqu'un qui avait trouvé cette astuce, qui formait une petite équipe et qui bien achetait très peu cher, sans doute, ces calendriers-là, et qui nous les faisait vendre un peu en porte-à-porte. Nous, on avait 10%, et peut-être les handicapés n'avaient pratiquement rien.
Rien, parce que j'ai vécu ça à Paris.
Voilà.
J'ai vécu ça. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a fait vendre ce genre.
Voilà. Donc,
je connais.
Et donc, ce qu'on appelait le manager, et il se palpait quoi. Et donc, il va finir mal, d'ailleurs.
J'ai vu. Il y a une justice. Il y a une justice.
Donc, il y a tous ces personnages-là sur Brest, parce que tout se déroule à Brest, rue Vauban, entre autres. C'était notre lieu, mais un peu autour. Il y a toute cette faune-là qui... j'ai essayé de rendre hommage, en fait, dans ce livre, bien sûr, en racontant un peu ma vie, mais à des gens qui le méritaient, à d'autres qui ne le méritaient pas forcément, qui étaient pitoyables, mais je trouvais qu'ils avaient quelque chose. Et à une chose dont on n'a pas beaucoup parlé peut-être, je voulais rendre aussi hommage à la contre-culture. La contre-culture qui est oubliée maintenant. Et c'est pour cela que je fais beaucoup de références aux musiciens, également à certains poètes. Parce que ça me permet de dire il y a eu autre chose que la société dans laquelle on nous a fait avancer depuis des années et des années. Et la contre-culture, c'était dire nous, on n'accepte pas qu'on nous dise qui on doit écouter, qui on doit lire, qui on doit apprécier. Donc, on allait chercher nous-mêmes dans d'autres univers, entre autres l'univers d'autres civilisations.
Oui, hein,
des gens qu'on pouvait reconnaître comme étant des...
Alors là, je vais vous dire, mon cher, c'est qu'aujourd'hui, dans la société muselée où nous sommes, nous en aurions besoin énormément.
Ouais.
Hein, ça, c'est mon point de vue.
Je suis tout à fait d'accord.
Hein, voilà. Nous allons écouter donc un nouveau morceau de musique que vous avez choisi. Vous pouvez nous dire.
Oui, c'est de Gigi Cale, qui est un chanteur de l'Oklahoma, pas trop marginal, lui, hein. Mais je l'ai choisi parce que j'en parle dans mon livre, vers la fin de mon livre, et c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de très doux, et c'est, la douceur faisait aussi partie de notre vie.
Passion d'écrire, plaisir de lire. Voilà, nous nous retrouvons encore avec Daniel Malbrand, que pour son excellent ouvrage « Aller voir ailleurs », autobiographie autorisée, et qui est paru, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand même, aux éditions Germe de Barbarie.
Oui, qui est une édition, une maison d'édition qui est de notre
local.
Cru local, puisqu'elle est basée au Flé, et qui œuvre vraiment beaucoup pour tout ce qui est diffusion de la littérature en général, entre autres par sa revue Instinct Nomade.
Oui,
où on se retrouve tous les deux d'ailleurs au prochain numéro consacré à Léo Ferré.
Léo Ferré. Et donc j'espère d'ailleurs que lorsqu'elle va sortir, je recevrai donc son créateur, hein,
Bernard Dezon,
qui nous parlera, parce que c'est vrai que elle gagne à être connue.
Ah oui, de vraiment de qualité.
Oui, de qualité. Bon, là on n'est pas là pour en parler, mais Bon. Alors, je reviens un peu sur votre ouvrage. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup touché, vous avez dit que vous rendez hommage à un certain nombre de personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et vous rendez même hommage à des gens qui sont antinomiques par rapport à vous. Je pense par exemple à cette aventure qui vous arrive lorsque vous faites du stop et qu'un camionneur, je ne sais pas, vous amène dans une soirée qui est orgiaque.
Oui, hein, oui, oui.
Bon, donc, bon, et qui pourtant, lui, va vous sauver. Vous sauver à un moment donné quand les abrutis qui sont en face de vous voudraient bien vous casser la gueule.
Oui, oui.
Parce que vous leur déplaisez énormément.
Oui, parce que en fait, c'est passé tout simplement. Je faisais beaucoup, beaucoup de stops et j'en ai fait pendant 10 ans des milliers de kilomètres en stop. Et là, on est tributaire de celui qui nous prend. Et là, c'était au moment de Noël. Il fait une soirée, c'était un entrepreneur de maçonnerie, il fait une soirée. Pourquoi il m'avait à la bonne alors que moi j'étais plutôt comme un clodo et cheveux très très longs, avec mon sac, tout ça, pourquoi il m'a à la bonne, je sais pas. Toujours est-il qu'il m'amène dans cette soirée, il a invité d'autres copains d'entreprise, il y a même des CRS qui viennent, et justement un des CRS, à un moment donné, plus qu'aviné, commence à se prendre à moi et à vouloir me casser la figure, et lui s'oppose effectivement de façon très ferme à ce que ça se passe mal, quoi. Heureusement, les filles qui étaient payées sont arrivées juste là pour apporter un peu de diversion.
De soulagement. De soulagement. Bon, mais c'est vrai. Oui, alors, c'est intéressant parce que là aussi, ça nous arrive dans la vie de rencontrer des gens avec qui on n'aurait pas envie d'avoir le moindre contact. Et puis, on est surpris par leur comportement. Ouais. Et là, vous êtes d'autant plus surpris que quand vous partez, il vous dit que si vous repassez, hein, vous pouvez repasser.
Et je suis jamais repassé, en fait. Lorsqu'on fait du stop, si la personne nous laisse 30 ou 40 km plus loin, on va pas revenir en arrière pour aller voir une personne, forcément. Moi, c'était ça mon chemin. C'est on me déposait là où on pouvait, et puis je continuais mon chemin, quoi.
Ouais. Ouais. Alors, il y a une autre personne aussi qui a compté dans les moments où vous étiez vraiment en mauvaise situation, et en particulier lorsque vous avez eu un problème de santé, vous êtes infecté, je crois, un doigt, quelque chose comme ça. Et on ne s'attend pas à ce que ce soit cette femme qui vous sorte de là, quoi.
Alors, c'est vrai que j'avais une sorte de panarie là, énorme, je n'arrivais pas à soigner, je n'avais pas de sécu ni rien. Une amie plus ou moins, enfin une connaissance que on avait fait dans un bar, me conseille d'aller voir une vieille épicière. Là, et cette vieille épicière, en fait, à l'époque, je suppose, faisait un peu, pas de la magie, mais des ongons pour soigner les gens.
Oui, oui.
Et elle m'amène dans son arrière-boutique, et puis avec une scène que je décris tel que c'était, ne fais pas d'invention là.
Oui.
Me soigne et tout se passe bien. Et la chose la plus étonnante, c'est que il y a un lien avec mon grand-père.
Oui.
Parce que mon grand-père a vécu dans cette rue là. Et était à peu près du même âge que cette personne. Mon grand-père qui est mort à Dunkerque en 1940. Et lorsque je donne mon nom à cette personne, elle se rappelle de quelqu'un qui s'appelait comme ça, et elle me cite, sans savoir que j'étais le petit-fils, le prénom de mon grand-père. Et donc, mon imagination suit que peut-être tous les deux, ils ont fricoté, quoi.
Oui.
voilà. Sans certitude, hein.
Oui, oui, bien sûr, non, mais en même temps, il y a un peu de magie là-dedans.
Voilà, oui.
Il y a un peu de magie.
Parce qu'il y avait de la magie dans ces temps-là aussi.
Oui,
là, hein.
Oui, bien sûr. Et on montre cette solidarité humaine quand même.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire qu'on... Mais bien, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On dit qu'il n'y a plus de solidarité, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus.
Non. Ouais,
on ne laisse pas mourir quelqu'un à sa porte. Je crois qu'on est prêt à intervenir quand il y a des besoins. Et pendant cette période-là, donc, qui est une période extrêmement dure, telle que vous la décrivez...
Qui est encore beaucoup moins dure que
ce
qui va venir.
Bon,
D'accord.
Mais c'est quand même...
Ouais.
Difficile.
Ouais, ouais.
Difficile.
Très, très difficile. Ouais.
Très difficile. Vous avez d'ailleurs des périodes de découragement.
Voilà.
Là, on le sent. un découragement.
Oui, parce qu'on on se dit à un moment donné, mais pourquoi je me suis mis dans cette galère?
Oui.
Alors que j'aurais pu être prof, avoir ma vie réglée, sans m'occuper comment j'allais manger, etc.
Oui.
Enfin, je me posais beaucoup de questions, c'est vrai. On ne vit pas comme ça sans, à un moment donné, être confronté à sa propre déchéance et puis se dire, mais pourquoi
qui est responsable?
Ouais, voilà. Oui. Donc, mais c'est dur de remonter.
Oui.
Et de se dire, non, cette vie, je ne l'ai pas voulu.
Oui.
Et si je me mets d'autres, est-ce que je ne vais pas perdre cette magie de l'écriture, cette magie de la poésie?
Exactement.
C'était ça le dilemme.
Oui.
Le dilemme. Ouais. Ce que, sans doute, j'aurais pas perdu. J'aurais fait autrement. La preuve, c'est que depuis, pas 50 ans, mais 40 ans, maintenant...
Vous faites autrement.
J'ai 35 ans, j'ai fait autrement.
Autrement, bien sûr.
Donc,
ouais. Alors, dans cette période-là, on va effleurer simplement le sujet, mais vous avez été dans un monde plutôt marginal, un monde, je dirais, à la hippie.
Oui, mais moi je dirais, on disait plutôt freak à l'époque.
Oui, freak.
F-R-E-A-K.
Oui.
Parce que les hippies avaient cette couleur un peu folklorique.
Oui, hein, oui.
Freak, ça veut dire qu'on était à l'extrême.
Oui.
À l'extrême. Que ce soit dans notre vie, par les substances que l'on prenait,
oui,
etc. Et par peu à peu la déchéance presque corporelle, quoi.
Oui, hein, bien sûr.
On était à la limite, quoi.
Il hein,
y a un autre mot qui vient peut-être à l'idée, c'est junkie.
Hein, oui. Hein.
Donc, c'était cette période très, très difficile,
oui,
qui va s'accentuer après.
Qui va s'accentuer après. Ouais. Et pourtant...
Je le raconte, je ne sais plus si c'est dans ce premier tome ou dans le second que je suis en train d'écrire. C'est mon père qui va me sauver. Parce que j'effleure un petit peu ce qui va suivre. Il y a toute cette période. Je vais partir en Afghanistan.
Oui.
Je ne sais pas raconter encore dans ce livre. J'ai parti en Afghanistan.
Vous l'annoncez.
Oui.
Vous l'annoncez.
Ouais. Et au retour d'Afghanistan, où tous mes amis, tout ça, eux, existaient, mais différemment. Donc je ne pouvais pas me rapprocher d'eux. J'étais vraiment au bout du rouleau. C'est mon père qui me récupère, qui décide d'agir pour me sauver, qui me trouve une association. Et ça tombe bien, cette association, c'était Radio Liberté à Ribérac.
Oh, formidable.
Donc, par la radio,
oui,
je me suis réinséré à la société. La première émission que j'ai fait sur Radio Liberté s'appelait « Poète vos papiers », comme la chanson de Léo Ferré.
Oui, hein, d'accord.
Donc, c'était le lien avec ma vie d'avant.
Ouais.
Bon, il m'a fallu 7-8 ans pour vraiment me réinsérer. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mon épouse, etc. Donc, voilà,
oui,
voilà. Il a fallu quand même à un moment donné une circonstance. Si mon père n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui.
Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous aviez conscience quand même de l'état où vous étiez.
Oui.
Parce que même avec votre père, si vous n'aviez pas eu cette conscience-là, vous n'auriez peut-être pas pu réussir. Hein.
Ben, disons qu'il y a eu des rechutes.
Oui.
Il y a eu des rechutes. Hein.
Oui.
C'est pour ça que je dis 7-8 ans. Hein. Mais c'est surtout le fait que mes amis, eux, s'en étaient sortis.
Tous, tous.
Non, non. Ceux qui n'étaient pas morts.
Oui.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont morts.
Oui.
J'en parle, je crois, à un moment donné.
Oui, c'est ce que vous dites.
Il y a beaucoup, ils sont morts. Et ceux qui restaient, et bizarrement, c'est ceux qui étaient avec moi dans cet appartement de la rue Vauban.
Oui.
Qui sont restés, eux. Aussi. Parce qu'ils avaient peut-être autre chose que simplement vivre en marge. Ils avaient aussi quelque chose qui les conduisait, qui a fait qu'ils sont sortis aussi.
D'accord, c'était en définitive, ils avaient un objectif.
Voilà,
comme
voilà.
Vous.
Voilà.
Hein, et là, c'était le voyage simplement qui conduisait.
Ouais.
Alors ça, c'est assez formidable. Ouais. Ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est l'hommage que vous rendez à une ville qui a été sauvagement bombardée, qui s'appelle Brest, que vous avez connue, vous reconstruite. Mais qui garde, dans votre description, c'est une âme particulière.
Oui. Surtout le quartier Recouvrance.
Oui.
Recouvrance, qui était le vieux quartier, le quartier des matafs, quartier des étudiants, parce que c'était pas cher,
pas
et
cher.
Puis des marginaux également. Et donc, il y avait toute cette vie-là. Et j'en parle dans le second aussi, alors d'autres parties de Brest. Et ça me fait plaisir de rendre hommage à ma ville natale.
Hein, oui, on le sent très fort.
Ouais, ouais.
Bon, nous allons bientôt achever donc notre entrevue. Hein, on aurait tellement d'autres choses à dire, mais bon, c'est un premier tome,
hein, ouais.
Un premier tome de vos mémoires, on peut les appeler
comme ça. Oui.
Vous allez avoir un deuxième tome que vous êtes en train d'écrire, qui paraîtra à la
fin de l'année
prochaine.
Ouais.
Donc, on suivra ça de près,
ouais.
Bien sûr. Et vous en avez même dans la tête un troisième, non?
Oui, parce qu'en fait, le second, ça va être les dérives plus que dures. Qui vont me laisser à un moment donné seul. Et à partir de là, je vais partir en Turquie et un autre voyage après en Afghanistan. Donc le troisième va raconter un voyage en Turquie qui a duré assez longtemps avec des galères à Belgrade, etc. Et la seconde partie de ce livre, ce sera le long voyage en Afghanistan et mon retour pour retrouver les bras de ma mère, ou plutôt ma mère qui va retrouver mes bras puisqu'elle va mourir dans mes bras. En 83.
Ça a dû vous marquer aussi.
Et c'est ça, je pense, aussi, qui a été le déclencheur un peu.
Ça a dû vous marquer, oui.
Et j'arrêterai là, je ne raconterai pas l'histoire
après.
Non,
mais bien sûr. Ouais. Écoutez, moi, ce que je souhaite surtout, c'est que cet ouvrage puisse être lu par un maximum de gens. Et je pense qu'il peut être lu, qu'on soit ado ou qu'on soit vieillard kakoshim, ce qui est presque mon cas. Et donc, je plaisante. Donc, Daniel Malbranque. Allez voir ailleurs, allez ER, hein, bien sûr. Autobiographie autorisée, parue donc aux éditions Germes de Barbarie. Et on peut le trouver où ?
Alors, pour l'instant, simplement chez l'éditeur.
Chez l'éditeur.
Germes de Barbarie.
En allant sur Internet.
Oui, sur Internet, on peut le trouver. Et prochainement, dans les librairies de Bergerac.
D'accord. Ouais. Ben écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci
et
à vous.
Bonne chance pour ce livre fabuleux. Bonne année à tous. Au revoir.
C'était votre rendez-vous littéraire. Passion d'écrire, plaisir de lire. Présenté par Jean-Claude Delaire sur RVB.